Très bien, merci beaucoup de cette invitation, merci de ce privilège de vous partager la parole de Dieu, de la confiance aussi que vous témoignez. C'est un plaisir pour moi d'être ici. On va faire quelque chose d'un petit peu particulier ce matin. On va probablement être beaucoup plus dans l'enseignement que dans la prédication. On va être un peu comme à l'école du dimanche. Et vous savez, un jour, un ami à moi me disait, il a parlé à plus de 70 000 personnes. Et il était tellement fier, il a demandé la vidéo, il l'a montré à sa maman, qui est fort âgée. Et il m'a dit, mais en réalité, de ces 70 000 personnes, qui s'est rappelé de ce que j'ai dit? Et pourquoi est-ce qu'il me disait ça? Parce qu'il me disait, généralement, les plus grandes vérités se partagent dans les plus petits comités. C'est plus, moins on est et plus on peut partager des vérités profondes dont on se rappelle. Alors, on n'est pas beaucoup ici ce matin et on va saisir l'opportunité pour découvrir quelques vérités. Je vais vous parler de l'amour de Dieu, je vais vous parler de la démonstration de l'amour de Dieu, et puis j'aimerais qu'on découvre ensemble peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant, mais la seule chose dans la Bible où Dieu nous dit qu'il le fait avec tout son cœur et toute son âme. Est-ce que vous avez envie de découvrir ceci? La chose que Dieu fait de tout son cœur et de toute son âme, il y a peut-être plusieurs choses, mais la seule chose qui nous est révélée sur le cœur de Dieu, de ce qu'il fait de tout son cœur et de toute son âme. Pour ceci, j'aimerais qu'on tourne dans Jérémie, le chapitre 31, et j'aimerais qu'on regarde à la parole de Dieu ensemble. Alors je vois que parmi nous, il y a les chrétiens du 21e siècle, il y a encore les chrétiens du 20e siècle, comme moi, j'ai aussi un iPhone, j'ai une tablette, mais j'ai peur de m'emmêler les pinceaux sur ma tablette, donc je préfère ma vieille Bible sur papier. Alors, tournons dans Jérémie 31. Voilà, et puis, que vous soyez électronique ou sur papier, on va voyager dans la parole de Dieu ce matin, d'accord? Donc vous êtes prêts? Vous êtes avec moi? Vous mettez vos ceintures de sécurité, d'accord? Ne jugez pas avant d'avoir entendu jusqu'à la fin. Restez ouverts afin que vous receviez et considériez ces propos que je vais vous partager. On va lire les trois premiers versets, ensuite on va prier, ensuite on va partir. « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Seigneur Père, nous te remercions pour ta présence ici, pour ta bonté, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Et Seigneur, nous prions que tu ouvres nos yeux afin de percevoir et d'apprendre à regarder comme tu regardes, nos oreilles afin d'entendre et nos cœurs afin de comprendre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 La parole de Dieu est la révélation de Dieu aux hommes. Et nous avons tous une seule et même Bible, constituée de 66 livres qu'on appelle le livre. Une révélation de Dieu sur plus de 1000 ans d'écriture, mais avec une révélation par rapport à l'histoire depuis la Genèse jusqu'à l'avenir et l'éternité, jusqu'à l'Apocalypse, par l'Apocalypse. Maintenant, ce qui peut changer, c'est notre manière de lire la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'en suis pas à la manière de comprendre, mais à la manière de lire la parole de Dieu. Et je crois que c'est juste important qu'on s'y arrête un instant, parce qu'il y a différentes manières de lire la parole de Dieu. il y a essentiellement ce qu'on appelle la manière allégorique de lire. C'est celle où on lit et où on voit ce qui n'est pas écrit. C'est ce qu'on appelle aussi spiritualiser la parole de Dieu. Et puis il y a une autre manière de lire la parole de Dieu, c'est de la lire de manière littérale, c'est-à-dire de considérer que Dieu dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit dans sa parole. Dans ce contexte, je suis le grand partisan d'une lecture littérale de la parole de Dieu, autant que faire se peut. Et dans ce contexte, quand Dieu nous parle d'Israël, il nous parle d'Israël. Il ne nous parle pas de l'Église, il ne nous parle pas d'un groupe de personnes, il nous parle d'Israël. Et vous allez me dire, ça semble évident. Oui, ça semble évident et pourtant, c'est très très subtil. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous vous rappelez Ézéchiel 37 et la vallée des ossements ou le cimetière. Pendant mes 35 ans de marche avec le Seigneur, j'ai entendu des prédications sur Ézéchiel 37. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Sur le mouvement de l'esprit, sur la résurrection, sur le réveil spirituel. J'ai entendu pendant des années mille et une choses, sauf les propos d'Ézéchiel 37. Parce que les propos d'Ézéchiel 37, c'est la maison d'Israël qui revit de ses cendres et qui est ressuscitée pour à nouveau être constituée devant le Seigneur. Et vous voyez comment on peut prendre un texte hors de son contexte et en faire un prétexte. Et je pense qu'il est très très important pour nous de lire cette parole de Dieu de manière littérale et de considérer chaque texte dans son contexte. De loin, l'Éternel vient à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dans le contexte, cette parole est à l'égard de la nation d'Israël. Et donc j'aimerais qu'on considère ce matin l'amour éternel de Dieu pour la nation d'Israël. Je suis marié, père de deux filles et une fille, et souvent, à travers mes années de mariage, j'ai dit à mon épouse, je t'aime. Jusqu'au jour, et pour ceux qui connaissent mon épouse, c'est une personnalité et un caractère, jusqu'au jour elle m'a dit, je ne veux pas un homme qui me dise qu'il m'aime, je veux un homme qui me montre qu'il m'aime. Parfois nous utilisons ce qu'on appelle des pléonasmes, c'est-à-dire des redondances. En fait, dans notre phrase, on parle d'un amour en action. Mais l'amour sans action n'existe pas. Notre Dieu est un Dieu d'incarnation. J'aimerais qu'on comprenne ça. Notre Dieu est un Dieu d'incarnation. L'amour n'existe que dans l'action. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Le reste, ce sont des concepts, ce sont des pensées, ce sont des paroles. Mais ce qui importe à Dieu, c'est ce qui est incarné, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est habité. J'aimerais utiliser la foi comme exemple. Dans la pensée gréco-romaine, la foi est une croyance, la foi est un concept, la foi est une pensée. Dans la pensée biblique, la foi est une action. C'est par la foi qu'Abel a sacrifié, c'est par la foi que Noé a construit, c'est par la foi qu'Abraham est parti, c'est par la foi que Moïse a quitté, c'est par la foi que David s'est battu. Et nous, par la foi, que faisons-nous? C'est notre, la démonstration de la foi, elle est par nos œuvres. Sans nos œuvres, il n'y a pas de foi. La foi est inerte, elle est morte, elle n'existe pas. Eh bien, c'est exactement la même chose concernant l'amour. Alors, nous prenons ici une déclaration du Seigneur qui dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et sachant que Dieu est le Dieu de l'incarnation, de l'habitation, du concret, on est en droit d'avoir la démonstration de l'amour éternel de Dieu envers Israël. Et Dieu aime Israël d'une manière particulière. J'aime dire que Dieu aime Israël un peu comme l'enfant, le fils ou la fille aînée dans une famille. Je ne crois pas que notre famille soit une exception à ce phénomène-là. Nous n'avons pas éduqué notre fille, notre première fille, exactement de la même manière que la deuxième fille et que de la troisième fille. Pourquoi ? Nous l'avons éduquée sur la base des mêmes valeurs, les mêmes parents, le même contexte, le même foyer. Mais la première, c'est la première. La première doit montrer l'exemple. La première doit être une inspiration aux autres. Et donc, on aura tendance à être plus sévère ou plus dur, ou disons plus exigeant avec la première fille. La deuxième vient... Par expérience, elle suit plus ou moins l'exemple, plus ou moins. Parce qu'il y a un moment donné où le deuxième a besoin de se détacher, a besoin d'exister par lui-même. Quant à la troisième, dans nos circonstances, ça fait 19 ans qu'elle sait y faire. Elle a tout compris, elle a tous les exemples devant elle, et elle sait naviguer entre les eaux troubles d'une manière absolument extraordinaire. Eh bien, à travers Israël, on considère à la fois la bonté, mais aussi la sévérité de Dieu. Parce que Israël nous a été donné comme nation exemple pour les choses à suivre et pour les choses à ne pas suivre. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la notion de nation. Qu'est-ce qu'une nation ? Une nation, c'est essentiellement l'assemblage de trois choses. C'est l'assemblage d'un peuple, d'une terre et d'une constitution. Ces trois choses sont essentielles à l'existence d'une nation. Un peuple sans terre est apatride. Une terre sans peuple est désertique. Un peuple et une terre sans constitution est anarchique. Donc, nous avons besoin à la fois du peuple, de la terre, et de la Constitution. Lorsque vous entendez parler d'un nouvel ordre mondial, faites toujours très très attention. Nous vivons de nos jours dans un autre ordre mondial qui a été institué par Dieu déjà à l'époque de Babel. Et le concept de la nation et de l'État-nation et l'État de droit est un concept qui nous a été donné par Dieu. Vous savez comment à Babel, il a dispersé le peuple, il leur a donné différentes langues et il les a dispersées dans le monde géographique et il en a fait des nations. Au milieu de ces peuples, de ces lieux géographiques, de ces langues, il a choisi un homme, Abraham, à qui il a dit « Je ferai de toi une grande nation ». Ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a des grands paradoxes dans le royaume de Dieu. Ce qui est élevé est ce qui est bas, ce qui est grand est ce qui est petit. La nation d'Israël est en fait très petite, mais il en fait une grande nation parce qu'il en fait une nation exemple. Et sur cette nation exemple, il garde son œil, il garde sa bienveillance, il garde sa bonté et en même temps sa sévérité. C'est à travers la nation d'Israël que nous allons avoir la révélation de la constitution de Dieu à travers ce que nous appelons les 10 commandements. La Bible ne les appelle jamais les 10 commandements. Elle les appelle les 10 paroles. Il y a une grande différence entre des commandements et des paroles. Est-ce que ces 10 paroles sont des commandements ? Oui. Est-ce que ces 10 paroles sont plus que des commandements ? Oui. Ce sont des paroles de vie, ce sont des promesses, ce sont des prophéties pour notre destinée, pour la destinée d'Israël et pour notre destinée. J'aimerais vous donner quelques exemples. Tu ne voleras point. Tu ne voleras point est plus qu'un commandement. C'est une destinée. C'est une prophétie dans ta vie, tu ne voleras pas. Si tu suis Dieu, tu ne deviendras pas un voleur. C'est extraordinaire. Dieu a une plus grande destinée pour toi que d'être un voleur. Et vous savez comment Jean Calvin a transformé ces choses en disant, mais si tu n'es pas appelé à être un voleur, en réalité, tu es appelé à travailler pour gagner de l'argent, non pas pour devenir riche, mais pour aider ceux qui sont dans le besoin. Du voleur, Dieu va faire de chacun d'entre nous des gens qui vont aider ceux qui sont dans le besoin. Ta destinée n'est pas d'être un adultère. Ta destinée n'est pas de regarder le jardin de ton voisin et de voir l'herbe toujours plus verte ailleurs. Ta destinée n'est pas dans la convoitise. Ta destinée n'est pas seulement dans le travail sans cesse. Écoutez, vous mettez deux théologiens l'un envers l'autre au sujet du Shabbat et vous aurez probablement trois opinions. Moi, j'aimerais mettre tout le monde d'accord concernant le Shabbat. Tout le monde d'accord. J'aimerais que lève la main la personne qui est contre un jour de congé par semaine. Eh bien, j'aimerais vous dire, avant les bolchevistes, avant les syndicalistes, avant les communistes, avant les socialistes, Dieu avait prévu un jour de congé par semaine pour tous les hommes, même pour les bêtes. Et nous, on va commencer à argumenter à un niveau théologique sur le Shabbat, pas le Shabbat. Ayez votre journée de congé par semaine. Ça fait partie du cycle de la vie. Vous savez que à l'époque de la Révolution en France, ils ont voulu passer des semaines de 7 jours aux semaines à 10 jours. C'était vraiment un esprit antéchrist. Et vous savez que le huitième jour, les chevaux de trait tombaient littéralement dans les champs. Parce que ça fait partie du cycle de la vie. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'il veut en venir? De cette nation d'Israël et de ces 10 paroles qui sont des paroles de vie, Dieu a amené une constitution et il a établi un état de droit. C'est-à-dire que un exemple pour que les nations ne soient pas sujets à un souverain qui fait des lois selon ses humeurs, suivant s'il s'est levé du pied droit ou du pied gauche le matin. Et tout cela, nous l'avons de la part de Dieu. L'ordre mondial à travers les nations qui assure un certain équilibre, fragile certes, mais un équilibre dans ce monde, un état de droit où nous avons une liberté et où les lois sont des lois de référence pour chacun d'entre nous et ce qui nous permet de vivre en société. Tout cela, c'est la pensée biblique et c'est la révélation de Dieu. Alors j'aimerais qu'on retourne à mon épouse et puis qu'on regarde cette démonstration de l'amour éternel de Dieu envers Israël. Et j'aimerais juste qu'on regarde trois démonstrations d'amour de Dieu envers Israël. Et vous allez me dire, j'aimerais qu'on comprenne finalement qu'est-ce que cela implique pour nous. Parce qu'il y a une grande implication pour notre vie ici, aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on tourne dans l'évangile de Jean et on va voir si la technologie va plus vite que la mécanique. Dans Jean, ah mais je ne vous ai pas dit le verset, c'est pas juste ça. Dans Jean chapitre 11, et on va lire à partir du verset 47 jusqu'au verset 51. Jean 11, 47 à 51. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent : « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains reviendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation d'Israël. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Nous avons pris la Sainte Cène ce matin et nous nous sommes rappelés du sacrifice de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, et ce n'est pas Caïphe qui le dit, ce n'est pas Laurent Favre qui le dit, mais il ne l'a pas dit de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa de la part du Saint-Esprit que Jésus devait mourir pour la nation d'Israël. C'est que ça ne plaisante pas quand Dieu dit qu'il aime. Quand Dieu dit qu'il aime, il aime. Quand Dieu dit qu'il aime éternellement, il aime éternellement. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, une histoire vraie, une histoire que mon épouse et moi avons vécue et qui concerne notre deuxième fille. À l'âge de 16 ans, elle a quitté la maison. On n'a pas eu de ses nouvelles, directement, indirectement, pendant plus de 2 ans. On a fait quelque chose qui était totalement irresponsable. On n'a rien fait. Et la raison pour laquelle on n'a rien fait, c'est que on était persuadé, et Dieu nous a clairement parlé à mon épouse et à moi, comme quoi nous ne devions rien entreprendre. On a parlé de la foi en action, et parfois la foi, c'est faire confiance, et faire confiance sans rien faire. Dans la vie, il y a des choses qui dépendent de nous, et il y a des choses dont on dépend. Et on était face à une situation où nous dépendions, et qui ne dépendait pas de nous. Au bout de 2 ans, plus de 2 ans, notre fille a appelé. Nous sommes allés la chercher, nous l'avons reçue à la maison. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas posé une question. On lui a souhaité la bienvenue. On l'a reçue et on l'a accompagnée dans la restauration de sa vie. Aujourd'hui, elle travaille dans une école biblique. Elle part en mission, elle prêche dans les assemblées. Dieu a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Quelle est la leçon que j'ai appris en tant que père? La leçon ultime. L'amour inconditionnel. L'amour, quel que soit ce qu'un enfant peut faire. Simplement parce que c'est un enfant. Et simplement parce que j'en suis le père. Il y a quelque chose d'inconditionnel dans l'amour de Dieu. Absolument inconditionnel. Et lorsque Israël se détourne de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu manifeste et démontre son amour en s'incarnant dans la personne de Jésus et en mourant pour cette nation. J'aimerais qu'on tourne dans Acte 5. Parce que je pense que ça nous fait du bien d'entendre ces choses. Et pour être très franc, et on ne va rien occulter, on ne les entend pas souvent. Et vous voyez, vous allez voir de plus en plus des choses qui vont se faire à l'égard de la nation d'Israël. Parce que cette révélation, c'est une révélation que Dieu veut que son Église comprenne, embrasse, et pour lequel il veut que son Église s'aligne. Et c'est important de comprendre les fondements de la foi et les fondements de l'action prophétique de Dieu envers Israël. Parce que vous et moi, nous ne sommes pas appelés à un amour romantique envers Israël. Il n'y a pas de romantisme dans la parole de Dieu dans ce sens-là. Et en même temps, si nous laissons cet espace vide, comme l'histoire nous l'a enseigné, et la nature n'aimant pas le vide, nous laisserons place à l'antisémitisme. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être fortement ancrés dans la parole de Dieu et dans le cœur du Père. Regardez dans Acte 5, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Et Pierre et les apôtres répondirent : il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est pas Caïphe, c'est pas Pierre, c'est pas Laurent, c'est la parole de Dieu. Et quand il est dit Israël, c'est Israël. N'allez pas chercher ailleurs. Et combien de fois nous avons le talent de prendre ces paroles, de les attribuer à bien des situations, sauf la situation pour laquelle elle a été écrite. Est-ce que Jésus est mort pour nous ? Oui. Est-ce que Jésus a été élevé à la droite du Père pour nous donner la repentance et le pardon des péchés ? Oui. Oui. Et prenez ces promesses. Et vivez-les, et embrassez-les. Mais n'oubliez jamais d'où elles proviennent et à qui elles ont été données en premier. Ce que Dieu fait de tout son cœur et de toute son âme, vous aimeriez le savoir ? Va retourner dans Jérémie, maintenant. Pas Jérémie 31, mais Jérémie 32. Alors Jérémie 31 et Jérémie 32 sont des chapitres absolument merveilleux parce que Jérémie prophétise des centaines d'années auparavant, des milliers d'années avant ce que nous avons fait en prenant du pain et du vin ce matin. Il a prophétisé la nouvelle alliance que Dieu allait conclure avec Israël. On n'a pas le temps de parler d'alliance, je ne vais pas trop en parler, mais Dieu a fait des alliances à travers l'histoire, à travers la Bible, chaque alliance nous donnant une révélation supplémentaire de son œuvre, jusqu'à ce que Jésus dise à ses disciples : j'ai ardemment désiré partager cette Pâque avec vous, qu'il présente le pain et la coupe qu'il a appelée la coupe de la nouvelle alliance. Et quand il dit la nouvelle alliance, il ne dit pas une nouvelle alliance, mais il se réfère à la prophétie de Jérémie qui dit « Viendra le temps où Dieu va conclure une nouvelle alliance avec Israël. » Et cette nouvelle alliance, ce sera de mettre dans leur cœur les lois, non pas sur des tables de pierre, mais des tables de chair, afin qu'ils accomplissent la parole de Dieu. Alors dans Jérémie 32, nous allons lire le verset 40. À 42. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. C'est merveilleux d'être un fils ou une fille aînée mais beaucoup des Juifs aimeraient ne pas avoir ce rôle-là. Considérez à la fois la sévérité et la bonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette chose que Dieu fait de tout son cœur et de toute son âme? C'est ce que le prophète Ésaïe a prophétisé, Jérémie a prophétisé, Ézéchiel a prophétisé. Quelque chose qu'ils ont vu à travers les âges par le Saint-Esprit. Quelque chose qui maintenant se passe sous nos yeux et que tant de gens au sein même de l'Église occultent. Qu'est-ce que c'est? C'est que Dieu ramène les fils et les filles d'Israël aux quatre coins du monde sur la terre promise. Parce qu'il n'a jamais abandonné l'idée de faire d'eux la nation de référence pour le monde. Et si vous lisez ces prophéties comme Ézéchiel 36, Ézéchiel 37, comme Jérémie 16, comme Jérémie 32, vous verrez que Dieu a mis en marche sa feuille de route, afin que ce peuple ne soit plus apatride, mais que ce peuple soit lié à la terre sur laquelle il va restaurer sa constitution à travers un prodigieux réveil, afin que ce peuple soit le peuple que Dieu recherche. Et nous, dans tout cela, à travers Israël, nous faisons aussi partie des enfants de Dieu que le Seigneur rassemble à travers les quatre coins de la terre. Vous n'avez pas besoin de tourner, mais j'ai fait exprès d'occulter quelque chose en lisant Jean 11. Alors, je vais vous le relire pour que vous compreniez bien. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent : Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors, on a un problème, qui est un problème et un dilemme auquel on a dû faire face, nous, les nations, à travers tous les âges. Et ce problème, c'est le problème du choix de Dieu. Et j'ai bientôt terminé. Le problème, c'est le choix de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est un problème pour nous? Parce que nous avons tous expérimenté ce que ça veut dire d'être choisi. Et en même temps, nous avons tous expérimenté le fait de ne pas avoir été choisis à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Et ce qui crée un trauma, ce n'est pas toute la fois où on a été choisi. Ce qui crée un trauma, c'est toutes les fois où on n'était pas choisi. On vit dans l'époque de la Coupe du Monde, n'est-ce pas ? Et vous en entendez beaucoup parler. Alors évidemment, toute proportion gardée, quand j'étais enfant, je jouais au football et j'étais gardien. Et j'étais gardien, j'étais dans une équipe et puis j'étais un gardien remplaçant dans une équipe supérieure. C'est terrible d'être un remplaçant. Et puis un gardien remplaçant, c'est encore plus terrible. Parce que la probabilité que vous jouiez est tellement infime qu'il faut attendre des années pour qu'un jour le gardien que vous remplacez doive se blesser. Et puis, vous n'avez pas envie de souhaiter la blessure de votre copain pour que vous puissiez jouer, n'est-ce pas? Et combien de fois je suis venu et puis je n'étais pas choisi. eh bien, vous savez que ça a créé un trauma. Non, mais je vous assure, c'est bête, vous allez me dire. Laurent, maintenant, a 51 ans. Non. Ça a créé des traumas. J'ai des traumas comme ça dans la vie. Et puis, il y a des odeurs ou des choses que je n'aime pas trop sentir ou manger. Alors, par exemple, je n'aime pas trop manger la pastèque. Pourquoi? Parce que ça me rappelle quelques traumas. Alors vous savez ce qu'elle me fait? Vous savez ce qu'elle me fait, mon épouse? Eh bien, elle me prépare une pastèque pour le dessert, le soir parfois. Et puis, elle dit rien, puis elle vient, puis elle fait « Maintenant, mange et sois guérie », elle me dit. Nous savons tous ce que ça veut dire de ne pas être choisi. Et à chaque fois que nous entendons parler du choix de Dieu envers Israël, ça implique qu'on n'a pas été choisi. Mais en réalité, ce choix, c'est le choix d'un amour éternel, mais qui n'est pas exclusif. C'est le choix d'un amour éternel qui est inclusif et qui englobe tous les peuples de la terre. Et si au moins les peuples pouvaient comprendre que Israël est le véhicule de la révélation, de la rédemption et du salut de Dieu pour tous les hommes, nous considérerions les choses autrement. Et c'est l'œuvre du diable que le monde se tourne contre l'élément, l'outil, le véhicule, le choix de Dieu pour le bien de toutes les nations, de tous les peuples et de toute personne qui veut bien embrasser la foi en Jésus-Christ. Alors j'aimerais finir avec ceci et je vous promets. Bon, vous savez l'apôtre Paul qui disait « Enfin, frère », puis après vous avez encore deux chapitres. Non, je ne vais pas le faire. Mais je ne vais pas le faire. Mais j'aimerais quand même attirer votre avis. Vous êtes encore avec moi?
Oui.
Vous êtes... Merci beaucoup. OK. Je suis content qu'on puisse partager ces choses parce que en petit comité, il y a tellement plus de liberté pour les partager. Et puis, s'il vous plaît, ne prenez pas ce que je vous ai dit. Testez-le. Mais testez-le. Mettez-le à l'épreuve. J'ai pas de problème avec ça. Hein? Testez-le pour vous-même. Dans Luc, il y a l'histoire du centenier. Luc 7. Il y a l'histoire du centenier. Alors, j'aimerais qu'on remette les choses dans leur contexte. Il est à Capernaum. Le centenier est la responsabilité d'une centaine de soldats. Ces soldats ne sont pas des Israéliens, ce sont des soldats romains. Ce sont des envahisseurs, ce sont des ennemis, ce sont des étrangers. Et ce soldat-là, probablement, à travers son vécu en Israël, est venu à la foi dans le Dieu d'Israël. Et vous savez comment il envoie des gens, et puis il aimerait que Jésus fasse quelque chose pour son serviteur. C'est merveilleux parce que ce centenier, qui est un militaire, donc qui est un homme qui a été... Alors, est-ce qu'il est dur et robuste de personnalité, je ne sais pas, mais il a été entraîné pour être robuste. C'est probablement un homme qui a fait face à ce que tout militaire fait, particulièrement en temps de guerre. C'est un homme qui a dû voir des choses indescriptibles que probablement il n'aurait pas même voulu partager avec d'autres. J'ai un grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale sur le front et en fait, il n'en parlait pas beaucoup. Et il avait un serviteur qui était malade, mais ce soldat robuste qui en a vu mille et une couleurs, il était concerné par son serviteur. Et quand même. Il y a quelque chose dans la foi incarnée, dans l'amour incarné. Et puis vous savez, comme il dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que moi je ne suis pas digne de te recevoir. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il est un homme des nations. Et parce qu'un juif n'entre pas dans la maison d'un homme des nations. C'est pour ça qu'il dit. Il dit, je ne suis pas digne, mais tu dis juste une parole et mon serviteur sera guéri. Et puis après, c'est merveilleux parce qu'il dit, moi aussi, il ne dit pas, je suis un homme d'autorité. Il dit, je suis un homme sous l'autorité. Et je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, et il vient. D'accord ? Donc le fait d'être sous l'autorité est quelque chose qui nous donne de l'autorité. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? C'est parce que Jésus, quand il entend cette parole, il admire le centenier et se tournant vers la foule qui le suivit, il disait, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Une aussi grande foi. Maintenant, que disent les gens qui ont été envoyés par le centenier vers Jésus pour que Jésus intervienne dans les circonstances de son serviteur. Qu'est-ce que ces gens-là vont dire à Jésus ? Et écoutez bien, parce que c'est absolument extraordinaire. C'est dans Luc 7, vous n'avez pas forcément besoin de tourner, mais rappelez-vous-en. Dans Luc 7, à partir du verset 2, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. » Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Je vous dis que même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi que celle-ci. Pourquoi est-ce que je vous ai partagé ces choses ce matin ? Pour avoir plus de connaissances ? Non. Pour avoir une certaine compréhension de l'œuvre de Dieu à travers l'histoire, dans le futur et maintenant, certainement. Pour comprendre le cœur du Père et apprendre à aimer ce qu'il aime et à ne pas aimer ce qu'il n'aime pas, définitivement. Parce que je crois que Dieu nous appelle à un alignement sur son plaisir, sur sa volonté, sur son cœur. Écoutez, la question n'est pas de savoir si on a la foi ou on n'a pas la foi. La question est de savoir de quoi est-ce que notre foi est faite. Quel est l'ADN de notre foi ? Cette semaine, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se sont réunies à Palexpo pour voir le pape. Je ne vais pas être politiquement correct, ça ne fait rien. Vous en ferez ce que vous voulez de ce que je vais vous dire. Ça me réjouit. Ça me réjouit d'un côté parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont la foi. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a une multitude de gens qui ont la foi. Là où j'ai un doute, c'est quel est l'ADN de leur foi. Quel genre de foi ils ont. La question n'est pas de savoir si on a la foi ou pas. La question, c'est de savoir quelle est la foi que nous adoptons dans notre vie. Parce que ce que nous croyons va déterminer ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, les décisions que nous prenons, les priorités. C'est notre foi qui va déterminer tout cela. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il est important que notre foi soit fondée et enracinée sur la parole de Dieu. Pas sur ce qu'on a envie de croire, pas sur ce qu'on a envie de comprendre, pas sur ce qu'on a envie, sur la parole de Dieu et sur la volonté de Dieu et sur le cœur du Père, selon la révélation qu'il nous a donnée. Je vous dis que je n'ai pas vu une aussi grande foi que cet homme. Il croyait que Dieu pouvait dire une parole et son serviteur serait guéri. Il aimait la nation d'Israël jusqu'au point de construire la synagogue. Lui, tout ennemi qu'il était, J'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur Jésus, notre Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta révélation. Merci pour ta patience envers nous. Nous voulons considérer ta bonté et ta sévérité. Merci Seigneur parce qu'il nous est donné de connaître et de comprendre ces choses. Je prie Seigneur que cette parole, cette semence soit plantée dans de la bonne terre, croisse et porte du fruit à la gloire de ton nom. Nous voulons considérer ta parole, nous voulons considérer ton œuvre, nous voulons considérer ton cœur, nous voulons considérer ton amour. Et nous voulons nous aligner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous laisser avec cette pensée. Vous êtes peut-être comme moi, vous aimez bien le début de l'année, parce qu'en début d'année, je vous ai gardé très longtemps, j'ai abusé aujourd'hui. Et vous me pardonnerez. En début d'année, j'aime bien le début d'année parce que c'est l'année le temps des résolutions. Alors, bon, ce qui est absolument merveilleux, c'est que... Enfin, non, c'est pas merveilleux, mais c'est extraordinaire. C'est que je fais souvent de grandes résolutions et puis elles meurent de leur belle mort tout au long de l'année. Alors, j'ai décidé dorénavant de prendre qu'une résolution par année et puis d'essayer de m'y tenir. Un jour, j'étais à la maison, mon épouse priait en bas et puis moi, je priais en haut. Et je ne vous dirai pas qui est le plus spirituel des deux, mais au bout d'un moment, je voulais sortir de la chambre pour prier alors que ma femme continuait à prier. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je retourne dans ma chambre. Puis j'ai continué à prier. Puis je priais, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire cette année. Et puis, le Seigneur, il m'a repris en même temps, il m'a encouragé. Comme seulement Dieu sait le faire, il châtie ceux qu'il aime. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et s'il vous plaît, je ne le prends pas à la légère. Ce n'est pas que le Seigneur me parle tous les jours. Hein, mais voilà ce qu'il m'a dit. Ne regarde pas trop à ce que tu fais. Regarde à ce que moi je fais et aligne-toi. Considérons ce que Dieu fait. Ayons cette big picture, cette vue d'ensemble de ce que Dieu œuvre dans ce monde. Et juste alignons-nous. Ça suffit. Il ne nous demande rien de plus, rien de moins. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention.